J'aime lire, deuxième cassette, première face, numéro 123, page 44. Le chocolat. Le chocolat, tu adores ça. Mais sais-tu d'où vient cette délicieuse friandise? Eh bien, nous allons t'emmener dans un royaume très gourmand, le royaume du chocolat. La grande aventure d'une petite fève. Le chocolat vient d'une drôle de petite graine. Elle a la forme d'un gros haricot. C'est la fève de cacao. La fève de cacao est enfermée dans de gros fruits. Ces fruits s'appellent des cabosses. C-A-B-O-2-S-E-S. Ils poussent sur des arbres qu'on appelle les cacaoyers, C-A-C-A-O-Y-E-R-S. Les cacaoyers poussent dans les pays chauds, surtout en Afrique et en Amérique du Sud. Ce sont des arbres très fragiles. Quand les cabosses, ces gros fruits, sont mûrs, on les cueille à la main et on les fend en deux pour récolter les fèves. Il y a beaucoup de petites fèves à l'intérieur de la cabosse et les fèves sont cachées dans une sorte de gelée blanche et lisse. Mais on ne peut pas les manger comme ça car elles sont très amères. On les étale, les fèves, sous de grandes feuilles de bananier. Elles vont gonfler et prendre un bon parfum de chocolat. Lorsque les fèves ont gonflé, on les étale par terre pour qu'elles sèchent au soleil. Maintenant, les fèves ont perdu leur eau. Elles sont toutes brillantes, on peut les mettre dans des sacs. Les sacs de fèves de cacao sont chargés sur des bateaux. C'est le grand voyage jusqu'en France. Maintenant, les fèves sont arrivées à l'usine de chocolat. Il faut les trier et les nettoyer. Pour donner aux fèves leur merveilleux goût, il faut les faire griller dans des fours. Cela s'appelle la torréfaction. Puis les fèves sont broyées dans de grands moulins. La pâte de cacao est prête. Quand elle sort de la machine, elle est liquide. Cette pâte sent bon le chocolat, mais elle est encore très amère. On presse la pâte et on recueille d'un côté le beurre de cacao et de l'autre côté le reste qui deviendra le chocolat en poudre que tu bois au petit déjeuner. Pour faire le chocolat à croquer, on mélange la pâte de cacao avec du beurre de cacao, puis on ajoute du sucre. Pour avoir du chocolat au lait, on ajoute du lait. Maintenant, on verse le mélange dans de grandes cuves et on le remue pendant au moins une journée entière. Voilà, c'est presque prêt. Il y a là le monsieur qui fait le travail le plus agréable de toute l'usine à chocolat. C'est celui qui goûte. La pâte est lisse, douce, sucrée à point. Si on veut, on peut ajouter des tas de bonnes choses. Des noisettes, du riz soufflé ou des raisins par exemple. Il ne reste plus maintenant qu'à couler la délicieuse pâte brune dans des moules en forme de tablette. Mais on peut aussi verser le chocolat dans des moules de forme particulière. Pour Pâques, pour le 1er avril, tu sais qu'on fait des poissons, on fait des œufs, on fait des poules, on fait des lièvres. Et voilà les chocolats de Pâques. Voilà maintenant une énigme. Comme un petit roman policier, mais c'est toi qui dois deviner la solution. Doudou, le fameux cuisinier, pâtissier, confiseur, a décidé de faire une surprise à ses trois neveux, Antoine, Albert et Alphonse. Il leur a fabriqué 12 doudis, c'est des espèces de choses très bonnes à manger, au chocolat bien sûr, pour le goûter. Mais au moment du goûter, il ne reste plus que 2 doudis dans l'assiette. Doudou interroge ses neveux. Antoine dit, « Moi, j'ai fait du vélo tout l'après-midi avec un copain. Et toi, Albert ?»« Oh, moi, je lisais dans ma chambre. » « Et toi, Alphonse ?»« Moi, j'ai mal au ventre. Jamais j'aurais pu manger 10 doudis. » Maintenant, Doudou sait qui a mangé les doudis. « Et toi, est-ce que tu le sais ?»« Ah, eh bien, cherche. » Et tu vas chercher pendant un certain temps, parce que maintenant, en attendant que tu aies trouvé, je vais te donner la recette des doudis. Comment faire des doudis? Les doudis de doudou. Doudis, ça s'écrit D-O-U-D-I-E, et puis avec un S au pluriel, bien sûr. D'abord, les ingrédients, c'est-à-dire les choses dont on a besoin pour faire des doudis. Pour faire 20 doudis, il faut 200 g de chocolat noir, 3 cuillerées à soupe de sucre glace, 2 cuillerées à soupe de lait, 1 jaune d'œuf, ça c'est très délicat, il n'y a que ta maman qui saura le faire, même ton papa, je crois pas. 100 g de beurre mou et des granulés en sucre de toutes les couleurs. Maintenant, la recette elle-même, ce qu'il faut faire, et là aussi, tu auras sûrement besoin que ta maman t'aide. Tu fais fondre à feu doux, dans une casserole, le chocolat en morceaux avec les 2 cuillerées de lait. Remue bien avec une cuillère en bois. Bon, c'est bien fondu. Deuxièmement, tu retires la casserole du feu, tu ajoutes le beurre par petits morceaux et tu remues toujours. Troisièmement, tu ajoutes maintenant le jaune d'œuf, puis le sucre glace. Quatrièmement, tu remues encore pour bien mélanger. Et une fois que c'est bien mélangé, tu mets la casserole pendant 2 heures au réfrigérateur pour que la pâte durcisse. Ça y est, les 2 heures sont écoulées. Alors, cinquièmement, tu prends une cuillerée à café de pâte et tu fais des boulettes grosses comme une noix chacune. Et maintenant, c'est presque fini. Tu roules les boulettes dans les granulés de toutes les couleurs. Et bon appétit, les doudis sont finis. Il n'y a plus qu'à les manger. Mais à propos, dis donc, ces 10 doudis qui ont été mangés, hein, c'est Antoine, Albert ou Alphonse? Bon, tu réfléchis encore un petit peu. Je te rappelle ce qu'ils ont répondu chacun. Antoine a dit, « Moi, j'ai fait du vélo tout l'après-midi avec un copain. » Albert a dit, « Moi, je lisais dans ma chambre. » Et Alphonse a dit, « Moi, j'ai mal au ventre. Jamais je n'aurais pu manger 10 doudis. » Eh bien, la réponse, c'est bien sûr Alphonse qui a mangé les doudis. Il est le seul à savoir qu'il y avait 12 doudis dans l'assiette, puisqu'il voit qu'il en reste 2, et il dit qu'il y en a 10 qui manquent, mais les autres ne savaient pas combien il y avait de doudis dans l'assiette. Et puis en plus, t'as remarqué, il a mal au ventre, hein? Pourquoi? Peut-être parce qu'il a mangé 10 doudis et c'est un petit peu trop. Bien. Alors maintenant, la BD. La BD s'appelle À la bonne fourchette. À la bonne fourchette, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'enseigne du fameux restaurant où travaille la famille Dubuchon. Le père, Adrien Dubuchon, qui fait la cuisine. La mère, sa femme, Yvonne Dubuchon. Ils ont trois enfants, mais aujourd'hui il n'y en a que deux qui sont là. Tom-Tom Dubuchon, un garçon, et sa petite sœur, Nana Dubuchon. Et comme il y a beaucoup de travail dans le restaurant, eh bien, ils sont aidés par Mélanie et Gino. Mélanie aide plutôt à la cuisine et à la vaisselle, et Gino, lui, il est garçon dans le restaurant pour servir les clients. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle La tempête Robert. Nous sommes dans la cuisine et Tom-Tom et Nana sont en train de déjeuner. Le papa, Adrien Dubuchon, est en train de faire la cuisine, aidé par Mélanie, et la maman, Yvonne Dubuchon, rapporte des assiettes et des couverts sales de la salle à manger. Et voilà quelqu'un qui ouvre la porte. Qu'est-ce qui est cette personne? Eh bien, c'est une dame avec des lunettes qui porte un énorme sac plein de têtes de loup, de brosses, de produits d'entretien. Il y a même un aspirateur qui déborde. Et le papa s'écrie: Mais Robert, qu'est-ce que tu fais là? Mais oui, c'est tante Robert. Oh, dit tante Robert, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je m'installe chez vous pour une semaine au moins, si ce n'est pas plus. Oh, fait toute la famille qui n'a pas l'air enthousiaste. Oui, dit tante Robert. J'ai bien vu l'autre fois que vous étiez débordé. Oh, pas plus que d'habitude, dit le papa. Mais si, et les deux petits manquent d'affection, pas vrai, mes agneaux? Et elle les embrasse. Et puis, vous aussi, les parents, vous avez besoin qu'on vous soigne. Adrien, regarde, ton tablier est plein de taches. Et en plus, regarde mon Dieu, mais ton pantalon, il y a un trou dans le fond. Allez, je passe à l'action, dit tante Robert, donne-moi ce pantalon. Et ce pauvre Adrien Dubuchon, le papa, est obligé d'enlever son pantalon qu'elle commence à raccommoder. Et lui, il est en caleçon, en train de faire sa cuisine. Ah, il soupire, c'est bien le moment. Alors que les clients sont à table dans la salle à manger, de m'enlever mon pantalon. Tante Roberte a fini de raccommoder le pantalon du papa. Et elle se tourne vers la maman. Et maintenant, à nous deux, Yvonne, vous avez besoin d'une mise en plis. Et tante Roberte sort tout un attirail de coiffeur avec des rouleaux, des peignes, des brosses, un sèche-cheveux. Et elle lave les cheveux de maman, et elle lui fait une mise en plis. Cette pauvre maman se retrouve pleine de bigoudis. Et voilà, tante Roberte est toute contente d'elle-même. Et maintenant, elle utilise le sèche-cheveux. Voilà, dit-elle, c'est pas plus difficile que ça. Et maintenant, à votre tour, les enfants, je m'occupe de vous. Voyons, voyons. Vous avez bien des leçons à apprendre. Fait Nana. Ben, fait Tom-Tom. L'important, dit tante Roberte, c'est de s'installer confortablement. Allez, on débarrasse tout ce qui est sur la table. Les casseroles. les assiettes. Ah, ben voilà, on est quand même mieux comme ça pour travailler avec de la place. Ben, fait Nana. Fait Tom Tom. Allez, ouvrez vos cahiers. Bon, toi, Nana, tu vas m'apprendre ta poésie. Et toi, Tom Tom, ton résumé d'histoire. Pendant ce temps-là, je vais faire un tour dans les toilettes, dit Tante Robert. Ouh là là ! Quelle tornade ! Dit Mélanie. Quand Tante Robert est sortie de la cuisine. Et ça va être comme ça pendant une semaine, soupire Adrien, le papa. C'est pas possible, dit la maman Yvonne. Mais Tom Tom a une idée. Il le dit à Nana. On va l'enfermer. Et voilà qu'ils accumulent devant la porte des cabinets un chariot plein de serviettes de table et de nappes. Derrière, ils ont empilé des caisses et des caisses d'oranges sur lesquelles ils ont mis une poubelle. Et puis derrière, des caisses de bouteilles de vin, des boîtes de conserve, des bouquins, des jouets. Oh là là ! La porte est complètement barricadée. Jamais elle n'ouvrira à repousser la porte et à sortir. Elle n'est pas prête de sortir de là. Et Tom Tom et Nana sont assis depuis au moins une demi-heure devant leur barricade. Et Tante Robert ne sort toujours pas des cabinets. On l'entend même qui chante. Tra la 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 l'air, tra la 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 la, la 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 l'air, la 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 la. Mais, disent les parents, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on vous a un peu débarrassé de Tante Robert, dit Tom Tom. Ben vous êtes fous quand même, non? Et le papa et la maman débarrassent tout le matériel, les caisses de bouteilles, d'oranges, les draps et tout, et tout, et tout. Et voilà justement Tante Robert qui sort. J'ai fini ! Elle sort et elle a toujours son fameux sac avec tout son matériel de nettoyage. Elle dit, regardez, regardez comme ça brille dans les toilettes. Ah, j'ai fait un grand ménage dans ce petit coin. Et la voilà qui entre dans la salle à manger où tous les clients sont en train de déjeuner parce qu'il est une heure et quart à peu près. Maintenant, je suis sûr qu'on a besoin de moi ici, s'écrie-t-elle. Les clients sont un peu étonnés et regardent cette dame. Et voilà Tante Robert qui sort de son fameux sac une tête de loup avec un manche, tu sais, qui se rallonge, un peu comme une canne à pêche. Oh là là, cette toile d'araignée. Et hop, elle décroche une toile d'araignée qui était au plafond. Et elle a remisé sa toile d'araignée. Elle a sorti un chiffon à poussière. Et cette poussière. Et elle se met à secouer de la poussière et à secouer son chiffon. Oh, la poussière tombe sur les clients. Il y a un chat qui est sur les genoux d'une dame qui se met à éternuer. Hachi! Un bébé qui se met à pleurer. Ouah, ouah. Et cette vaisselle, il faut la nettoyer, dit Tante Robert. Et elle ramasse les assiettes. Mais je n'ai pas fini de manger, crie un client, ça fait rien. Bon. Tante Robert a emporté toute la vaisselle sale à la cuisine pour qu'on la lave, ou plutôt à l'office. Et maintenant, la voilà qui arrive avec un aspirateur. Il n'y a plus qu'à passer l'aspirateur. Les clients se bouchent les oreilles. Mais non, dit Tante Robert, vous ne me gênez pas. Et voilà que Tom Tom a encore une idée, et même une super idée. Entraîne-la vers la sortie, dit-elle à Nana. Et Nana prend un morceau de pain sec et les miettes en direction de la sortie. Elle crie « Par ici, tante Robert, par ici, il y a des miettes !» Et elle met des miettes jusque sur le trottoir. Et voilà tante Robert qui suit, avec son aspirateur toujours. « Oh là là, toutes ces saletés !» Mais Tom, le petit malin, profite d'un moment où elle arrête son aspirateur pour rattacher le fil de l'aspirateur à un fil long. Et tante Robert continue à aspirer. Et regardez-moi ce trottoir. Ah, il n'y a pas à tortiller. Si on veut que ça soit propre dedans, faut nettoyer dehors. Et Tom rit pendant que tante Robert s'éloigne avec son aspirateur sur le trottoir dans la rue. Tu sais, le fil de rallonge que j'ai mis, il fait 5 km de long. Alors on est tranquille pour un moment maintenant. Au revoir, tante Robert. Ne reviens pas trop vite. Voilà maintenant le numéro 126. Juillet 1987, de la même revue « J'aime lire ». D'abord, le jeu des questions « Vrai ou faux ?». Première question. Le 14 juillet, c'est l'anniversaire du président de la République ou bien l'anniversaire de la prise de la Bastille en 1789 ou bien la fête de l'été. Deuxième question. Une musette, c'est un instrument de musique ou bien un petit oiseau ou bien un outil pour retourner la terre. Troisième question. Un cotillon, c'est une danse ou bien un apprenti cuisinier ou bien un gâteau à la noix de coco. Ah, tu cherches, tu arrêtes le magnétophone. Quand tu auras bien cherché, tu seras à peu près sûr de tes réponses, tu écoutes les réponses, hein? D'accord? Alors, dans 5 minutes. T'as vraiment bien cherché? Eh bien, voilà les réponses. Le 14 juillet, c'est bien sûr l'anniversaire de la prise de la Bastille en 1789. Deuxième question, deuxième réponse. Une musette, c'est un instrument de musique. Troisième question, troisième réponse. Un cotillon, c'est une danse. Et maintenant, des blagues. Un gendarme s'approche d'un pêcheur.
« Monsieur, vous ne savez pas qu'il est interdit de pêcher ici ?»«
Mais je ne pêche pas. »«
Vous tenez bien une canne à pêche dans la main ?»«
Oui, monsieur. »«
À cette canne à pêche, il y a bien une ligne qui est accrochée ?»«
Oui, monsieur. »«
Au bout de cette ligne, je vois bien un hameçon ?»«
Oui, monsieur. »
Et sur ce hameçon est fixé un ver de terre.
Oui, monsieur.
Eh bien, alors, vous n'appelez pas ça pêcher?
Mais non, monsieur le gendarme. J'apprends à nager à mon ver de terre. Maintenant, des devinettes. Un train électrique roule de Paris vers Lyon. Le vent vient de l'ouest. Dans quel sens va la fumée? Tu cherches? Je t'en pose une en attendant. Quelles sont les plantes qui se plaisent dans les souliers? Les plantes qui se plaisent dans les souliers. Tu réfléchis. Eh bien, le train électrique, il ne fait pas de fumée. Alors, les plantes qui se plaisent dans les souliers, ben c'est les plantes des pieds. Tu sais, le dessous du pied, ça s'appelle la plante du pied. Une petite blague. La maîtresse demande à un élève, quelle est la cinquième lettre de l'alphabet ? Fait l'élève. Eh bien, très bien, dit la maîtresse. Et maintenant, encore une devinette. Quelle est la différence entre un sapin de Noël et un automobiliste qui brûle un feu rouge juste devant un agent de police? T'as pas trouvé? C'est pourtant facile. Il n'y a aucune différence, ils se font tous les deux en guirlandais. Et une autre. Quels sont les animaux qui mangent avec leur queue? Eh bien, tous. T'as déjà vu un animal enlever sa queue pour manger? Maintenant, une question. Faut-il dire 6 et 7 font 11, 6 et 7 font 11 ou 6 et 7 font 11? Pendant que tu cherches, je t'en pose une autre. Sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je? Eh ben, pour les 6 et 7, t'es pas très fort. Hein. Je sais pas quelle a été ta réponse, mais pour moi, 6 et 7, ça fait 13. Et sans moi, Paris serait pris. Eh ben, c'est la lettre A. Paris, ça s'écrit P-A-R-I-S. Si tu enlèves le A, ça fait P-R-I-S et P-R-I-S, ça fait pris. Voilà. Bon. Eh bien, c'est fini pour ce côté. Fin de la première piste de la deuxième cassette. J'aime lire numéro 111. Tu vas retourner la cassette et tu auras une grande histoire, l'histoire de l'hôtel du soleil à l'envers. Toujours extraite de « J'aime lire » numéro 100. Laisse d'abord la cassette quand même se dérouler jusqu'au bout, avant de la retourner. À tout de suite.